commencer donc cette conférence de presse des Nations Unies RDC. Nous remercions bien sûr toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Okapi qui sont en direct avec nous ici à RDC à travers le monde. Au sommaire de cette conférence de presse des Nations Unies, les activités des composantes de la MONUSCO qui seront présentées tout à l'heure par le porte-parole de la MONUSCO, Félix Prosper Bass. Et à une de ces activités des composantes de la MONUSCO, il sera question de la nomination du nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies à RDC. Les activités de l'équipe pays seront présentées entre autres par Geneviève Delenoy du PNUD qui nous parlera aussi d'un projet du PNUD sur le renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation des femmes et des enfants au changement climatique à RDC. Le major Faisal Ben Youssef, porte-parole militaire par intérim depuis Goma, nous fera le point de la situation militaire dans le pays. Et puis notre invité, comme vous le voyez, sera José Maria Aranaz, le directeur du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui nous présentera non pas un rapport, mais deux rapports sur la situation des droits de l'homme en RDC pour les mois de mars-avril, mais aussi un rapport sur la situation humanitaire donc à Béni. Voilà donc pour les grands titres de cette conférence de presse que nous commençons tout de suite avec donc les activités des composantes de la MONUSCO, une présentation de Félix Prosper Bass. Félix, bonjour.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Nous démarrons par l'annonce concernant la nomination par le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, de M. Mamadou Diallo de nationalité guinéenne, nomination survenue le 11 mai 2015 au poste de représentant spécial adjoint de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Il remplace à ce poste M. Moustapha Soumaré et assumera cumulativement les fonctions de coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC. Avant cette nomination, M. Mamadou Diallo a assumé la fonction de directeur régional pour l'Afrique occidentale et centrale du programme commun des Nations Unies sur le VIH-SIDA, ONU-SIDA. Médecin diplômé de l'Université de Conakry, M. Diallo est également titulaire d'une maîtrise en santé publique de l'Université d'État de San Diego en Californie, États-Unis, et un diplôme spécial de santé publique de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Par ailleurs, une information du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs qui organise du 13 au 15 mai 2015 à Goma une rencontre de la plateforme des femmes de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans les régions des Grands Lacs. Cette rencontre va réunir une quarantaine de femmes bénéficiaires de subventions de la part de bailleurs de fonds tels l'Irlande, la Hollande, le Royaume de Norvège et Oak Foundation. Lancé en janvier 2014 par le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, cette plateforme vise à garantir l'implication à part entière des femmes dans la mise en œuvre de l'accord cadre tout en renforçant la promotion d'une approche active visant à intégrer des questions liées au genre, notamment le respect et la protection des droits des femmes. Les cinq partenaires chargés de la mise en œuvre de la plateforme sont le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, le Fonds mondial pour les femmes, Femmes Afrique Solidarité en sigle FAS, la représentante spéciale des Nations Unies chargée de la lutte contre les violences sexuelles dans les conflits et le Fonds pour les femmes congolaises, FFC en sigle. Le but de ces rencontres est d'établir un programme commun entre tous les partenaires bénéficiaires de subventions et d'approfondir leur engagement au cadre formel du processus de paix dans la région des Grands Lacs. Le bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, représenté à Goma, se tient prêt à vous donner plus d'informations sur cette activité tout à l'heure dans la partie questions-réponses de la conférence de presse. Maintenant, nous passons aux activités des composantes de la MONUSCO. Police MONUSCO. La formation mobile du 9e contingent de la BAN FPU 1, l'unité de police constituée du Bangladesh, composée de 127 éléments dont 79 femmes, débuté le 27 avril 2015 à Kinshasa, a pris fin le 11 mai 2015. Elle a été animée par les policiers des Nations Unies de la coordination de la formation et leurs collègues officiers de liaison de l'unité de police constituée. L'objectif de cette formation visait à inculquer à l'unité les normes standardisées des Nations Unies, applicables dans le cadre des opérations de maintien de la paix et basées sur le strict respect des droits internationaux humanitaires et des droits humains pour toutes les opérations qu'il aura à mener sur le terrain et qui entrent dans le cadre de l'exécution du mandat de la MONUSCO, maintien ou de rétablissement de l'ordre, protection des civils et des installations de la MONUSCO, sécurisation des personnels de la mission. C'est bon Charles, je pense que nous pouvons passer la parole à Geneviève Delaunay pour le pilier développement.
Voilà donc, merci à Félix Poncet-Bach pour ces informations sur les activités des différentes composantes de la MONUSCO. La parole tout de suite effectivement à l'équipe et avec Geneviève Delaunay. Geneviève, bonjour.
Bonjour Charles.
Beaucoup d'activités du CNUD aujourd'hui je crois et je parlais de ce projet sur le changement climatique. Hein.
Oui, merci, bonjour à tous, à Goma et à Kinshasa et sur Radio Okapi et bonjour à toutes. Alors, comment aider les populations à s'adapter aux chocs climatiques tels que la sécheresse prolongée, les inondations, les ouragans, les typhons ou encore la désertification? Le changement climatique sévit sur la planète entière et il touche aussi la RDC, aggravant la précarité et les conditions de vie des communautés. C'est dans ce contexte que le PNUD lance officiellement le projet de renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation des femmes et des enfants au changement climatique en RDC. Concrètement, ce projet vise à aider les populations à s'adapter aux chocs climatiques et à adopter des pratiques de subsistance résilientes. Par exemple, dans le secteur agricole, des semences résilientes de maïs, de riz, de rachide, de niébé, de haricots et de boutures de manioc ont prouvé leur capacité de résistance aux chocs climatiques, notamment à la sécheresse. À l'issue de ce projet, 1200 ménages et producteurs vulnérables, soit à peu près 7200 personnes, hommes et femmes, maîtriseront les pratiques de résilience et pourront mieux gérer les risques qui y sont liés, comme la pénurie alimentaire. Les zones d'intervention concernées sont Ngimbi au Bas-Congo, Ngandajika au Kasaï oriental et Kipopo au Katanga. Alors, les ménages et producteurs vulnérables sont formés à ces pratiques d'adaptation, mais également une quarantaine d'associations féminines, 10 radios communautaires et 100 volontaires seront également formés dans ce qu'on appelle la vulgarisation des pratiques de résilience. Et il y aura également un partage d'informations agro-météorologiques pertinentes et accessibles de façon à aider les producteurs et les agriculteurs à mieux maîtriser les variations climatiques. Et ceci est destiné à 6000 bénéficiaires. Il est important aussi de noter que la bataille contre la pauvreté et la lutte contre les changements climatiques sont interdépendants. L'un ne va pas sans l'autre et il faut les attaquer de front simultanément. Il faut aussi noter que ce projet est axé sur les femmes et les enfants parce qu'on a noté que les femmes ont développé des capacités de résilience assez importantes et peuvent mieux maîtriser l'évolution du climat et l'atténuation des effets négatifs. Et beaucoup de pays en développement reconnaissent la maîtrise des femmes dans la gestion des ressources naturelles. Pendant des siècles, en effet, elles ont transmis leur savoir-faire dans la gestion des ressources en eau, des forêts et de la biodiversité. Et toutes ces expériences les ont dotées d'importantes connaissances utiles à l'élaboration de techniques d'adaptation. La deuxième information concerne l'épidémie à virus Ebola. Vous savez que depuis 1976, la RDC a été frappée à 7 reprises par l'épidémie à virus Ebola. La dernière épidémie a eu lieu en 2014 dans le territoire de Boende en province de l'Équateur. Avec le ministère de la Santé publique, le PNUD a mené une étude d'impact socio-économique sur les communautés ayant été frappées par Ebola. Cette étude vient d'être validée. Alors, les résultats montrent que, durant l'épidémie de 4 mois, près de 25% des ménages n'ont rien produit contre 13% avant la crise. Cette baisse de volume de production a eu un impact direct sur les marchés et entraîné une flambée des prix, notamment pour les arachides et pour la viande de porc. L'augmentation a été constatée de 233%, ce qui a aggravé l'appauvrissement de la population. Les impacts sociaux ont été multiples aussi pour les familles et les communautés directement touchées, notamment la psychose de la maladie a eu un impact très fort, le veuvage, la perte d'un ou deux parents, la stigmatisation et le dérèglement des us et coutumes. Alors on a constaté aussi avec cette étude que les germes d'un nouvel épisode de la maladie à virus Ebola sont toujours présents, notamment à cause de la grande pauvreté qui continue de sévir dans le contexte d'une économie axée sur les écosystèmes et notamment sur la forêt et la consommation de ces produits via la chasse, qui est un des vecteurs de la maladie. Dans le communiqué de presse qui sera diffusé après la conférence, vous verrez que l'étude propose des pistes de solutions dans le secteur de la santé, dans le secteur agricole, dans l'amélioration des infrastructures et aussi dans la prise en charge psycho-socio-économique des communautés affectées. Voilà, c'est tout pour le
merci donc à Geneviève pour ces informations du pilier développement. Pas d'informations sur l'humanitaire, mais nous avons deux spécialistes de la question dans la salle, Sylvestre Touma Moudigaï et Yvan Edoumou, qui sont prêts, bien sûr, à répondre à toutes vos questions. Direction Goma, nous allons retrouver, comme chaque mercredi, le major Faisal Ben Youssef. Major, bonjour, c'est à vous pour le point de la situation militaire.
Bonjour Monsieur Charles, bonjour tout le monde. L'environnement sécuritaire dans les provinces situées dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, s'est demeuré calme durant la semaine écoulée. En province orientale, des efforts significatifs sont fournis par les forces onusiennes et congolaises pour mettre un terme aux activités négatives des rebelles de l'armée de résistance du Seigneur LRA contre les populations civiles vivant dans les districts de Haut et de Bawele. En Ituri, durant la semaine écoulée, la force de la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent leurs opérations contre les insurgés du Front de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, auteur de nouvelles attaques contre les forces de défense et de sécurité congolaises et les populations civiles, basées dans les localités situées au sud du territoire d'Irumu. Le 8 mai 2015, trois militaires des FARDC ont été tués et 13 autres portés disparus et des armes emportées au cours d'une offensive lancée contre le camp Bouma de la force navale de l'armée congolaise située à 35 km au sud-est de Guéti. Cet incident a provoqué le déplacement des populations. Au nord Kivu, la situation sécuritaire a été marquée dans le territoire de Beni par de nouvelles tueries de civils, par des éléments supposés appartenir à l'Alliance des forces démocratiques, ADF. Mais également par l'activisme d'autres éléments armés dans les différents territoires de cette province. Dans le territoire de Beni, les rebelles résiduels de l'ADF ont poursuivi pendant la période sous examen des tueries systématiques contre les populations civiles. En effet, des rapports concordants ont fait état du meurtre à la machette dans la nuit du 8 au 9 mai 2015 de 7 individus, dont 5 hommes et 2 femmes, dans la localité de Matembo, située au nord de Beni Centre, près de Mavivi, sur l'axe Beni-Mavivi. Sitôt informée, la force de la MONUSCO a projeté sur les lieux de l'incident des troupes d'intervention rapide, dans le but de dissuader d'autres attaques contre les civils dans la région, de rassurer et protéger les populations civiles. Le 11 mai 2015, aux environs de 20h, 6 individus, 4 hommes, une femme et une fille, ont été tués à la machette et 6 autres blessés par des éléments supposés appartenir à l'ADF, au village Kalongo, 3 km à l'ouest de Mavivi, dans la région située autour de l'église de Mavivi, à 6 km au nord de Beni. Des troupes des FARDC déployées dans les régions de Mamoundioma, 17 km au sud-est des Rigetti et de Medina, ont également été attaquées par d'autres éléments armés non identifiés à la même date. Des unités de réaction rapide de la force de la MONUSCO, appartenant au bataillon malawite et tanzanien de la brigade d'intervention, ont été déployées en renfort sur les lieux de l'incident, dans le but de dissuader toute nouvelle attaque contre les populations civiles. Le 12 mai 2015, les troupes des FARDC ont engagé les positions des rebelles de l'ADF situées à l'est de la localité d'Oicha, dans le territoire de Beni, au cours d'une opération contre ce groupe armé. En soutien aux troupes congolaises, la force de la MONUSCO a déployé 2 hélicoptères d'attaque qui ont engagé avec succès les positions de l'ADF. Dans le territoire de Walikale, des accrochages entre les factions Tcheka et Guidan du groupe Maïma Nduma Défense du Congo NDC ont été rapportés le 9 mai 2015 et ont entraîné le déplacement des populations civiles vivant dans les localités de Limangi et de Mutongo, 25 km au nord-ouest de Niabiondo, vers la région de Kibwa, de Walikale Centre et de Goma. L'activisme des rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, contre les populations civiles et les troupes de l'armée congolaise a aussi été rapporté pendant la période sous examen dans les localités situées au sud du territoire de Lubero, dans les territoires de Rutshuru et de Masisi. 5 individus supposés collaborer avec l'armée congolaise ont ainsi été exécutés publiquement par les éléments appartenant aux FDLR Route, Rassemblement Uni pour la Démocratie, dans la localité de Machuta, située à 12 km au sud-ouest de Loufou. Au chapitre des redditions dans la province, du 6 mai à ce jour, 13 éléments en provenance des groupes armés se sont rendus aux troupes de la force onusienne déployée dans la province. Il s'agit de 8 des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, 1 du groupe Mai Mai Chekanduma Défense du Congo NDC, faction guidant, 3 du groupe Mai Mai Raya Mutomboki et 1 du groupe Mai Mai FPCP. Au sud Kivu, les forces onusiennes et congolaises maintiennent l'environnement sécuritaire sous leur contrôle par la pression militaire exercée sur les groupes armés actifs dans les différents territoires de cette province. Au Katanga, le conflit ethnique entre les communautés Luba et Pygmé s'est aggravé pendant la période sous examen dans la localité de Nyunzu, où un nombre important de civils pygmées ont été massacrés par des miliciens de la tribu Luba. Pendant la période sous examen, des centaines de miliciens pygmées fortement armés ont attaqué plusieurs villages de ressortissants Luba ainsi que des postes opérationnels des FARDC situés à Nyunzu. En réaction, des miliciens Luba dénommés éléments ont massacré plusieurs dizaines de civils pygmées et incendié la résidence du chef de la communauté pygmée accusé d'avoir hébergé des chefs rebelles de son ethnie. Le 8 mai 2015, les combattants pygmées ont incendié des maisons dans le groupement de Balumbungoy, provoquant le déplacement des populations civiles vers la localité de Manda, située à 49 km au sud-ouest de Nyunzu. Des troupes additionnelles de la police d'intervention rapide de la PNC ont été redéployées dans la région de Nyunzu et la force de la MONUSCO a également renforcé sa présence dans le secteur, dans le but de prévenir une nouvelle escalade de tensions entre les deux communautés. L'environnement sécuritaire est paisible dans le secteur 2. Enfin, la force de la MONUSCO a mené 1918 patrouilles armées, dont 671 nocturnes, et fourni 68 escortes pendant la période sous examen.
Voilà, merci au major Faïssal Ndouissef depuis Goma. Je rappelle que vous êtes à côté ou que le général Dos Santos Cruz, le commandant de la force de la MONUSCO, est à vos côtés. Et tout à l'heure, il pourra intervenir lors de la séance des questions-réponses. Nous revenons ici donc à Kinshasa et nous allons tous trois donner la parole à notre dernier invité pour cette conférence de presse. Et je vais laisser d'ailleurs la place à M. Basse, porte-parole de la MONUSCO, pour introduire notre invité, donc José Maria Aranaz, le directeur du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme.
Oui, merci Charles. Il faut préciser que dans le cadre du mandat du bureau conjoint des Nations Unies, tel que défini par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce bureau des droits de l'homme en République démocratique du Congo assure une surveillance étroite de la situation des droits de l'homme à travers le territoire congolais et procède à des analyses des tendances relatives à cette situation dans ce pays. Des informations sur ces tendances qui sont régulièrement partagées avec les autorités congolaises afin qu'elles prennent les actions nécessaires en vue de traduire en justice les odeurs des violations des droits de l'homme documentées par le Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme sont présentées de manière mensuelle à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Au cours des mois de mars et avril 2015, le Bureau conjoint a enregistré un total de 531 violations des droits de l'homme sur le territoire de la République démocratique du Congo, soit 292 violations au mois de mars et 239 au mois d'avril 2015. Pour plus de détails, nous allons vous laisser avec le directeur José Maria Aranaz, qui va également présenter le rapport des Nations Unies publié ce mercredi sur les graves violations du droit international humanitaire commises par des combattants des forces alliées démocratiques à l'EF. Monsieur Aranaz, la parole est à vous.
Merci beaucoup, Félix. Comme vous avez bien dit, il y a beaucoup d'informations à partager, d'informations publiques qui étaient déjà partagées avec les autorités congolaises, parce que nous avons la note mensuelle du mois de mars, l'avril, et aussi les rapports dédiés à la situation à Beni par les violations commises par les ADF à la fin de l'année passée, et on peut parler un peu plus de la situation actuelle des droits de l'homme. Au mois de mars, nous avons constaté 282 violations des droits de l'homme dans le territoire de la République démocratique du Congo. Ça confirme une tendance à l'os par rapport des rapports des mois antérieurs. En avril, la situation s'améliorait et le numéro de violations des droits de l'homme constatées par nous, c'était 239 en base par rapport du rapport antérieur. Les combattants des groupes armés sont les responsables de la majorité des violations des droits de l'homme, avec 60% de violations au mois de mars et même pourcentage à avril. Parmi les groupes armés, les combattants de FRPI sont les responsables de la majorité des violations, avec 43 violations au mois de mars et 33 au mois d'avril. Au mois de mars, il y avait 135 victimes, avril, 102 victimes. Les provinces les plus touchées, encore, sont les provinces dans l'est du pays, Nord Kivu, Oriental et Sud Kivu. Les agents de l'État, en mars, ont commis 39% de violations des droits de l'homme, avec la police nationale avec les numéros plus élevés. Au mois d'avril, c'était 40% des violations des droits de l'homme étaient commis pour les agents de l'État, le FRDC, nombre le plus élevé de violations des droits de l'homme. Il faut reconnaître aussi les efforts des autorités dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Au mois de mars, il y avait au moins 18 militaires de FRDC et 12 agents de la police nationale condamnés. La tendance a alors augmenté en avril. Donc il y avait au moins 34 militaires de la FRDC et 3 agents de la police nationale congolaise condamnés pour violation des droits de l'homme. Au mois de mars, le Conseil de sécurité a renouvelé le mandat pour la MONUSCO et a donné un mandat renforcé pour les droits de l'homme, a inclus la violation des droits de l'homme dans le cadre du processus électoral à venir. Au mois de mars et avril, le bureau conjoint a constaté 9 violations enregistrées dans le cadre des processus électoraux à venir, et depuis janvier, 36 violations enregistrées, ça veut dire les atteintes au droit à la vie, atteintes au droit à l'intégrité physique, atteintes au droit à la liberté, sécurité et droit de réunion pacifique. Au mois de mars, on a constaté aussi et a discuté avec les autorités les cas de l'arrestation par la police et l'ANR de 30 personnes qui sont participées dans un atelier organisé par Filimbi. Et le transfert après l'arrestation sans supervision judiciaire de tous les membres de Filimbi qui étaient dans les cachots de l'ANR après plusieurs jours, notamment à Fred Bauma, qui était le dernier transféré après une cinquantaine de jours dans un cachot sans supervision judiciaire. Dans une autre question, il faut remarquer aussi la nomination au 1er d'avril des 9 membres de la Commission nationale des droits de l'homme par l'Assemblée nationale du Congo. Et il faut remarquer la présence de 4 femmes parmi les commissaires. Il faut tourner la page et parler un peu du rapport des violations des droits de l'homme commis par les ADF entre le 1er octobre de l'année passée et la fin de l'année dans le territoire des 35 places au territoire de Beni, Nord Kivu. La méthodologie que le Bureau conjoint des droits de l'homme a utilisée, c'est de conduire les missions d'enquête. 13 missions d'enquête ont été conduites et plus de 180 personnes interviewées, y compris les victimes et les témoins sur le terrain. Selon les allégations, seulement les allégations corroborées par plusieurs sources indépendantes, crédibles et fidables figurent dans ces rapports. qui était lancé aujourd'hui ici, publié ici, et au Genève par le haut commissaire des droits de l'homme. Les conclusions principales du rapport disponible sur le site internet, c'est les exécutions sommaires au mois de 235 personnes de manière systématique, planifiée, avec le but prémédité et d'une manière systématique par les ADF. Tous les 235 personnes que nous avons nommées sont les civils et on pense que ça peut constituer des crimes de guerre et crimes contre l'humanité par rapport aux violations des droits internationaux et droits humanitaires et droits de l'homme. Aussi, nous avons constaté les attentats à l'intégrité corporelle de 49 personnes, donc des victimes de viol, des enlèvements et privations arbitraires de liberté à l'encontre de 20 personnes, des recrutements des enfants et pillages des autres appropriations illégales de propriété. Et il faut aussi remarquer qu'au moins il y avait 300 personnes arrêtées par les autorités congolaises dans le cadre des massacres et au moins 33 militaires de l'FRDC dans le cadre de la lutte contre l'impunité. On peut, comme je dis, on peut considérer ce rapport très important parce qu'il a la mention des facts qui peuvent être considérés comme les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. On a aussi profité des rapports pour recommander aux autorités de prendre les mesures urgentes pour mettre fin aux attaques contre la population civile par les combattants des ADF dans le territoire de Beni et protéger effectivement les populations. Aussi, de poursuivre les enquêtes judiciaires sur les violations commises par les ADF et par certains membres des FRDC dans le Nord Kivu et plus particulièrement dans le territoire de Beni et traduire tous les auteurs de cet acte en justice afin de pouvoir répondre les actes devant les juridictions compétentes. On a aussi nous a profité pour rappeler à la MONUSCO aux autorités de relancer les activités militaires, les opérations militaires conjointes afin de protéger la population civile et mettre à fond les activités des ADF. Événement qui n'était pas survenu après la rédaction de ce rapport, c'est la persistance des attaques des ADF. Depuis janvier et jusqu'à avril, on a constaté au moins 50 violations des droits de l'homme commis par les ADF qui fait 133 victimes de violations des droits de l'homme. L'arrestation de Jamil Mukulu, le chef spirituel et commandant des ADF le 20 avril à la frontière entre Tanzanie et Kenya. Et en tout cas, il faut conclure avec les remarques. Les ADF continuent à être une menace à la population civile des territoires de Beni, à la population du nord, de l'est de la République démocratique du Congo, et à la paix, à la sécurité. Et il faut rappeler à tous ceux qui sont compétents de faire tout ce qui est possible pour neutraliser au plus tôt possible et mettre les responsables de ces violations très graves des droits de l'homme à la justice.
Voilà, merci à José Maria Aranaz, le directeur donc du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, pour cette synthèse, non pas d'un rapport mensuel, mais de trois rapports en réalité, les rapports sur la situation des droits de l'homme des mois de mars et avril, et aussi sur la situation des droits de l'homme à Beni. Voilà qui nous conduit tout droit dans la séance des questions-réponses. Avant de commencer cette séance, je vais vous demander d'éteindre vos portables ou de les mettre sous silencieux. Je rappelle que nous avons en direct de Goma le général Dos Santos Cruz, le commandant de la force. Nous avons ici donc à Kinshasa, José Maria Aranaz, le directeur du bureau conjoint. Nos collègues de l'équipe pays Geneviève Delenoy, Yvon Edoumou et Sylvestre Tunga Mudigayi. Et nous avons également à Goma, si je ne m'abuse, une représentante des femmes à la conférence donc sur la loi cadre d'Addis Abeba, une conférence qui s'est ouverte et qui se poursuit jusqu'à la fin de cette semaine. Et donc elle pourra répondre éventuellement à des questions concernant donc cette conférence qui réunit plusieurs femmes de la région des Grands Lacs, donc à Goma. Nous allons donc rester à Goma d'ailleurs pour prendre deux questions d'abord. Goma, c'est à vous.
Ok, je vais donner la parole à tout vert, comme la dernière fois, il n'a pas posé sa question.
Merci, je m'adresse au général. C'est Touvé Oundi de la FNC. Il a été annoncé la semaine dernière que la MONUSCO pourrait mener des opérations unilatérales contre les FDLR. Ça veut dire quoi concrètement sur terrain?
Oui, merci beaucoup. Opération unilatérale. Je voudrais clarifier qu'il y a quelques discussions sur le mot unilatéral est approprié. C'est très difficile de quelque chose unilatéral dans les pays. Parce qu'il y a les autorités locales, il y a la FRDC, il y a la police nationale. Alors, l'action, pour quelque action, c'est nécessaire un niveau minimum de concertation, de coordination. Alors, nous ne vont pas discuter ici les mots unilatéraux. Je pense que la meilleure façon, c'est parler de opérations avec coordination. Hein? C'est unilatéral, ce n'est pas une. Quelquefois, c'est la compréhension, ce n'est pas correct.
Tout à fait. Je crois que le porte-parole ici à Kinshasa veut ajouter quelque chose. Félix Bax.
Oui, juste pour rappeler aux auditeurs que c'est la référence faite par le journaliste à Goma tient compte tout simplement d'une déclaration faite dans le cadre des rencontres qui sont initiées et poursuivies par Monsieur Hervé Lassou, qui a par ailleurs aussi clairement signifié que ces opérations ne peuvent pas se conduire de manière unilatérale dans la mesure où un minimum de soutien est requis pour que ces opérations puissent avoir du succès. Ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement que la synergie de nos efforts, de nos intelligences doivent être tous mis ensemble pour permettre de protéger les populations civiles, mais aussi la vie des soldats congolais qui tombent sous le coup des balles des ADF, mais encore plus la vie des casques bleus qui aussi souffrent des activités négatives perpétrées par les ADF. Donc je pense qu'il faut recadrer justement cette déclaration dans son contexte.
Goma, une autre question s'il vous plaît.
Alors, on va donner à Inga.
Merci beaucoup, c'est Inga Paterne, AP. Ma question s'adresse au porte-parole militaire Félix Bass.
Non, je ne crois pas civil.
Excusez-moi.
Allez-y.
Excusez-moi. Ma question est celle-ci. Quelle action concrète prévoyez-vous avec les indices de la guerre qui se font vivre actuellement à l'est de la RDC, comme les tueries à Beni, et voire même les quelques éléments de FIB, de la MONUSCO, les enlèvements dans le parc national de Virunga, les insécurités grandissantes dans la région est de la RDC Congo?
Non, nous allons laisser la place plutôt au général Dos Santos Cruz pour répondre à cette question, s'il vous plaît. Général, c'est à vous à Goma.
Pour moi.
Oui, la question est pour vous.
L'insécurité à l'est du Congo, il y a une sécurité étourdie avec LRA et FRPI. Il y a ici ADF, Tchèque, FDLR et aussi le conflit au Katanga. Il y a beaucoup de conflits. Alors, quels sont les activités opérationnelles pour stopper le niveau, la réduction du niveau de violence. C'est nécessaire une priorité. C'est nécessaire une priorité parce que pour la MONUSCO, ce n'est pas possible d'attaquer tous les problèmes dans le même temps. Il y a différentes responsabilités dans les problèmes. Il y a une chose que je voudrais clarifier très bien. Nous parlons de combattants de groupes armés. Pour moi, ils ne sont pas combattants. Ils sont assassins criminels. Je suis combattant. Je suis combattant, le soldat de FRDC est combattant. Ils sont criminels. Ils sont assassins. Il n'y a pas de groupe armé. Il y a des groupes criminels ici. Alors, les mesures sont différentes en différents points et endroits du pays. L'ADF, c'est un problème prioritaire, je pense. Si c'est possible de considérer prioritaire du point de vue humanitaire, c'est difficile de considérer une priorité. Mais l'ADF, nous allons renforcer la troupe de MONUSCO. Nous avons besoin de débloquer le travail ensemble avec la FRDC, parce que seulement ensemble nous pouvons avoir réussite dans la mission. C'est nécessaire un travail global pour arrêter le soutien les assassins qui sont bandits qui sont dans la ville et qui soutiennent l'ADF dans la forêt. C'est un travail de la police, de renseignement, d'enquête. C'est nécessaire attaquer, utiliser toute l'opportunité pour attaquer les bandits d'ADF.
Tout à fait.
Et pour neutraliser l'ADF ou pour éliminer la menace tout le temps. Alors, c'est un travail ensemble de la force de sécurité congolaise, la police nationale, le FRDC, les éléments de renseignement et de MONUSCO. Et utiliser toute l'opportunité pour attaquer les groupes de bandits qu'il n'y a pas de traces d'être humain dans ces bandits d'ADF.
Merci. Nous allons revenir ici à Kinshasa pour prendre deux ou trois questions et nous allons passer le micro à droite puis à gauche avant de repartir à Goma. Présentez-vous. Je rappelle que nous avons à la fois M. José Maria Aranaz et les collègues de l'équipe pays, bien sûr. Allez-y.
Guy Olume, RTNC2 Développement. Ma question s'adresse à Geneviève Delonoy. Avec votre deuxième volet de l'information sur le germe du virus Ebola à l'Équateur, comment concrètement les différentes agences des Nations Unies comptent soutenir la population des territoires de l'Équateur où les germes du virus Ebola seraient toujours présents pour ne pas retomber des mains dans les contaminations massives et propagation du virus?
Geneviève.
Oui, merci pour votre question. C'est en effet une question essentielle parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Et vous avez vu que j'ai souligné les différents secteurs dans lesquels il faut, l'étude recommande d'agir, à savoir le secteur de la santé, de l'agriculture, des infrastructures et notamment de la prise en charge psycho-socio-économique. Alors, maintenant, c'est à voir ensemble au sein du système des Nations Unies comment aider les populations. Mais je voudrais quand même rappeler une chose importante, c'est que la protection de la population, que ce soit au niveau de la sécurité ou au niveau de la santé, c'est une responsabilité qui incombe en premier lieu aux autorités congolaises. Les Nations Unies viennent ici en appui. Donc c'est pour ça que cette étude est conjointe avec le ministère de la Santé publique et le PNUD notamment, en l'occurrence ici. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que le leadership, l'impulsion va venir de la part du ministère de la Santé et le PNUD, en l'occurrence, et les autres agences des Nations Unies qui voudront y participer pourront appuyer. Mais l'initiative viendra de la part du ministère de la Santé publique.
Nous n'avons personne de l'OMS ici pour répondre précisément à l'autre volet de votre question qui disait que les germes d'Ebola existent toujours dans la province de l'Équateur. Oui. Je crois que Geneviève.
Oui, les germes, on peut entendre ça au niveau sanitaire, mais c'est surtout, les éléments qui font que la pauvreté persiste toujours. Les localités, les personnes qui habitent là-bas continuent à chasser dans la forêt. Or, on sait qu'il y a un lien direct entre le produit de la chasse et qui est un vecteur de contamination. Donc, il y a plein de choses à remettre debout, notamment l'accès plus facile aux structures sanitaires. Le fait aussi de donner plus d'informations aux populations pour qu'elles sachent les dangers qu'elles courent, effectivement. Donc, quand on dit germe, c'était pour faire une allusion au fait que Ebola peut malheureusement ressurgir, pas seulement dans cette zone-là, mais ailleurs, et qu'il est important de remettre sur pied les infrastructures sanitaires, faciliter la vie des agriculteurs, leur permettre d'avoir des crédits pour commencer à faire de l'élevage plutôt que de la chasse en forêt, etc. Et il y a aussi une prise en charge psychologique qui doit être faite parce que la maladie, on a constaté qu'elle a créé aussi beaucoup de peur au sein de la population et aussi beaucoup de stigmatisation. Donc il faut travailler sur tout ça en même temps.
Question à gauche, s'il vous plaît.
Oui, merci. Moi, c'est Papi Kalokola pour le Pente du journal La Libre Orientale. La semaine passée, il y a le représentant spécial du secrétaire général, Martin Combler, a initié en début donc, de la semaine, je voulais dire, des interviews avec les ex-combattants de ZFDLR cantonnés au centre de transit de ZFDLR à Kisangani. Je voudrais avoir un peu, s'il y a une évaluation déjà sommaire à ce stade, si effectivement les ex-combattants se sont adhérés massivement ou bien ce ne sont que leurs dépendants. Et puis une autre question, une deuxième.
Rapidement, parce que
oui,
le temps passe. Hein.
Oui, c'est toujours au sujet de la situation de la mission, enfin de la résolution 2211. Hein, la nouvelle résolution 2211 donnant mandat, n'est-ce pas, aux quatre peuples de la MONUSCO de traquer unilatéralement les FDLR. Est-ce que à ce stade, parce que il y a beaucoup de résistances et de défis sur le terrain, ne pensez-vous pas envisager une opération ou des opérations conjointes où on pourra, n'est-ce pas, associer les les FRDC et puis l'UPDF, l'APR pour combattre justement ces rebelles négatives.
Parce qu'en fait, c'est une très longue question. Hein. Oui. Bon, arrêtez-vous.
Je vais se résumer là.
Je crois, voilà. Le premier volet de la question avec Félix Bass, s'il vous plaît.
Oui, merci pour votre question qui est relative à la situation des éléments FDLR qui se sont rendus et qui sont présentement hébergés au camp Bahouma à Kisangani. Oui, le représentant spécial dans le cadre de ses activités normales s'est rendu à Kisangani car vous savez que Kisangani constitue une préoccupation réelle dans le cadre du processus de désarmement, de démobilisation et éventuellement de rapatriement de tous ces ex-rebelles FDLR qui sont volontairement rendus au FRDC ou à la MONUSCO et qui sont à Kisangani. Bien sûr, c'est une préoccupation parce qu'il faudra bien trouver des solutions à ces FDLR. Et dans le cadre aussi des tournées qu'il effectue, monsieur le représentant spécial a voulu savoir, constater de visu, quelle est la situation réelle de vie de ces FDLR dans le camp de Bahouma afin d'y apporter des réponses idoines et régler les problèmes qui subsistent.